I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, alors Marius, aujourd'hui sur le podcast, alias Marius, mais c'est Alain Alivon de votre nom et prénom. Bienvenue sur le podcast.
Merci. Ben, merci déjà de m'inviter et puis de profiter de cet échange aujourd'hui, quoi.
Ouais, on va échanger. Comme je disais, moi j'aime bien partir un peu, alors des fois dans tous les sens, des fois pas forcément dans tous les sens. Il y a des choses que je me suis notées, des thématiques, des idées, des questions, des choses qui me taraudent un petit peu. J'aimerais avoir votre avis et voir un petit peu comment ça se passe dans votre tête. Et puis d'autres choses qui sont complètement donc à l'improvisation. C'est comme ça que j'aime bien faire les podcasts. C'est un épisode que j'attends presque de faire depuis longtemps. C'est vrai que j'ai mis du temps avant d'entreprendre le fait de vous contacter parce que, alors je sais plus, je crois que j'étais passé par Teddy Palassi qui m'avait donné le contact, les éditions, je crois, pour entrer en contact. Parce que vous m'avez été quand même pas mal demandé et j'ai essayé de pas trop regarder ce qui s'est fait sur vous parce que j'aime bien partir un peu d'une feuille blanche pour poser mes questions et pour essayer de comprendre. Mais néanmoins quand même donc gros parcours dans la marine, dans les forces spéciales, commando marine. Bon, on va revenir sur tout ça. Je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui vous découvrent ou vous redécouvrent aujourd'hui.
Bah, succinctement, moi je suis donc un ancien marin d'état. J'ai servi 22 ans dans les unités non conventionnelles, dans la marine nationale et dans les unités spéciales, hein, les forces spéciales, puisque moi j'étais au commando de Montfort, et puis j'ai eu aussi la chance par deux fois d'être instructeur, c'est-à-dire à la formation à l'école des fusiliers marins, qui est la maison mère, pour former les jeunes qui rentraient dans la marine et qui souhaitaient les postulants, puisque énormément de postulants pour très peu d'élus. Voilà, et après ça, après une carrière de 22 ans dans la marine, j'ai quitté, et puis j'ai embrayé dans le civil, qui est un monde totalement différent, pour être aujourd'hui dans la sûreté portuaire. J'ai conservé quand même cette liaison avec la mer, hein, puisque moi j'aime bien ne pas être trop loin de l'eau. Et puis à côté de ça, ben je vends mes services et mes prestations pour le cinéma ou la télévision dans le cadre du conseil tactique et technique, ben pour donner un petit peu de la crédibilité au projet ou aux concrétisations de films ou feuilletons, ce qui peut passer avec une dominante bien sûr qui a un rapport avec mon domaine de compétence. Et au-delà de ça, ben j'ai une association qui s'appelle Marius Team Combat que j'ai créée il y a maintenant 15 ans. Dans laquelle je dispense des stages d'aguerrissement pour toute personne, c'est des populations assez cosmopolites, hein, pour les civils. Et avec cette association, il y a aussi un club de self-défense et préparation physique dans lequel j'officie, comme je le disais précédemment, depuis 15 ans. Voilà à peu près schématiquement le résumé de ce que je fais et ce que j'ai pu faire jusqu'à ce jour.
Ok, pas mal de choses. Bah, j'ai plein de petites questions qui me sont popées là directement. La première chose qui m'est venue, moi j'aime bien, ça m'intéresse. C'est quoi le plus gros choc quand on rentre, quand on revient dans le monde civil?
Ça pique parce que en fait, je m'en suis aperçu et je parle maintenant avec le recul que j'ai. C'est quand on est dans les unités non conventionnelles et qu'on est dans la marine, notamment là où je servais, on est dans un cocon. On est dans un cocon et malgré tous les risques qui sont liés par rapport au métier, on est dans un cocon et on se sent protégé, autant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Et on a des rapports humains qui sont totalement différents, puisque dans la balance, on met pas la même chose hein, par rapport à un civil. C'est-à-dire que nous, que ce soit à l'entraînement ou à l'opérationnel, vous mettez dans la balance votre vie en jeu. Et puis c'est tellement un domaine en même temps d'élitisme par rapport à à ce que vous devez être physiquement ou mentalement pour rester opérationnel, que dès que vous avez un grain de sable dans la machine, eh ben, tout peut s'enrayer ou peut être mis sur la touche. Donc voilà, et en même temps, il y a une fraternité, il y a une appartenance, une cohésion, une respiration collective qui est là, qui est présente. Et quand vous basculez dans le civil, c'est pas une critique que je fais, maintenant j'ai plus de 20 ans de retour dans le civil, mais le plus dur, le choc, eh ben, c'est que vous avez perdu toutes ces choses-là. Et le monde du civil, je le compare avec l'expérience que j'ai maintenant, les gens se mettent beaucoup en avant, et quand vous grattez un petit peu le vernis, eh ben, y a rien derrière. Tandis que le monde d'où je venais, c'est un monde d'élite, un monde où vous devez toujours être opérationnel, mais par contre, il est empli d'humilité. Et d'humilité, vous êtes vraiment humble par rapport à ce que vous allez faire et ce que vous faites. Vous devez vous maintenir à niveau. Et quand je suis arrivé dans le civil, ça a été la plus grosse des claques, ça a été ça. Et surtout aussi, le manque de cohésion, le manque de confiance. Et ça, c'était très, très dérangeant parce qu'on perd ses repères. Voilà. Dans notre monde, le monde dans lequel je venais, il n'y a pas besoin de discuter. Un seul regard suffit. On a les mêmes fondations, c'est-à-dire les fondations de base dans la formation initiale. Après, chacun tout au long, qu'il fasse 5 ans, qu'il fasse 10 ans, qu'il fasse 20 ans, on a des codes qui sont bien spécifiques et qui nous permettent toujours de faire confiance à l'autre. Chacun connaît sa place dans l'organigramme hiérarchique opérationnel et ne va pas empiéter sur le voisin. Et alors qu'on a le même état d'esprit, ce qu'on appelle le fight spirit chez nous, qu'on a ça. Et quand vous arrivez dans le civil, c'est le contraire. Les gens sont très méfiants, ont peur que vous preniez sa place. Il y a un rapport matériel et financier qui est très présent et qu'on ne connaissait pas avant, quoi. Nous, on est dans le monde dans lequel je venais, on était des compétiteurs, mais des compétiteurs pour l'entité avec l'esprit de cohésion et non pas à titre individuel. Le seul souci qu'on avait individuellement, c'était rester à niveau et rester opérationnel pour pas être mis sur le côté indépendamment de notre volonté, quoi. Voilà la grosse claque que vous prenez dans le civil. Et alors, eh ben, vous n'avez pas les codes, vous savez pas déchiffrer, et c'est très difficile. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on est des sortes de caméléons, et on arrive à s'adapter. Heureusement pour, on va dire, 80% des gens qui ont servi dans les unités non conventionnelles, arrivent à s'adapter parce que ce qui prédomine chez nous, ben, c'est la passion, la détermination et la volonté à arriver, mais sans l'étaler sur la place publique. Chaque fois qu'on va avoir une victoire particulière, on va la savourer, elle va nous aider à avancer. Mais au début, dans le civil, ouais, c'est très dur parce qu'on retrouve pas, on est un peu perdu, on n'a plus nos repères, quoi.
Ouais, y a une espèce de, est-ce que on pourrait appeler ça une espèce de médiocrité aussi, les gens sont, enfin, dans le civil, ça va lentement, les gens sont pas, alors ils ont pas confiance, mais ils
non,
sont aussi,
c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas du tout eu le même cursus de formation, on n'a pas eu les mêmes fondations, parce qu'il y a des gens qui sont très très compétents dans le civil, qui sont très très forts, qui apportent beaucoup de choses aussi, mais, en fait, on est des êtres, on est tous différents. Et la graduation des choses est totalement différente. Quand vous venez d'un métier, comme je vous disais, les armes dans lesquelles j'ai servi, vous pouvez mettre à l'entraînement ou dans l'opérationnel, par exemple, votre vie dans la balance. Mais un civil, en tête, il a jamais ça, quoi. Il va pas mettre sa vie dans la balance et il va accorder de l'importance à des choses à nous qui nous sont totalement futiles. Et c'est là où on trouve un décalage. C'est comme si qu'on n'était pas sur la même fréquence. Et nous, il faut qu'on se mette sur la même fréquence que ces personnes. Parce que ce qui pour eux leur semble très, très important, pour nous reste très, très futile. Et c'est pour ça que je parle toujours de graduation des choses. Et nous, on arrive à s'adapter. Ben, on va redescendre sur certaines choses. Et on va essayer d'apporter aux gens notre expérience vécue. En fait, moi, tout ce que j'ai eu et tout ce que j'ai appris dans le midi, je m'en suis servi dans le civil en l'adaptant. Autant dans mon secteur professionnel que dans mon monde associatif, je vais apporter aux gens ce qui va leur permettre d'ouvrir les cadenas, de décoder et de relativiser les choses. Et voilà, je vais donner un exemple bien précis. Dans le cadre des formations, je suis un intervenant dans des formations différentes. Je fais de la sensibilisation aussi au terrorisme, ces choses-là, en entreprise. Et je leur dis, c'est pas parce que quelqu'un va sortir une arme que vous allez mourir. Et ça, c'est important. Et un civil, dans sa tête, si quelqu'un sort une arme, eh ben, il va mourir. Et je leur dis non. Parce que pour être capable, avec une arme, de sortir une arme en opérationnel et de dire, je vais toucher sur une distance de 0 à 50 mètres, je vais toucher la tête, je vais toucher le genou, je vais toucher le coude, eh ben, il faut avoir un entraînement qui se situe entre 300 et 400 coups à la semaine pour être capable de faire ça. Ça veut dire, je leur dis, quand une personne n'est pas entraînée, qu'elle va sortir une arme et qu'elle va tirer, elle est capable de rater une vache dans un couloir. Et si vous êtes capable d'avoir le bon réflexe ou le bon comportement pour essayer de préserver votre intégrité physique, c'est possible. Vous n'allez pas mourir. Et ces différences notoires qui sont alliées à votre domaine de compétences d'avant, si vous savez le superposer ou le mettre transversalement à des personnes qui ne connaissent pas, ne serait-ce que connaître par exemple les caractéristiques balistiques dessus, ça peut aider n'importe quel civil qui n'a aucune connaissance des armes à dire « Ok, je peux éventuellement m'en sortir ». Et dans la sensibilisation et la formation, et c'est pour ça que je vous dis, le manque de connaissances, le manque de communication et le fait d'avoir une graduation différente, et ben voilà pourquoi on se retrouve totalement ou peut-être comme un extraterrestre par rapport dans le monde dans lequel on va être immergé après avoir servi dans les unités non conventionnelles.
Ok. Bon, c'était très, très, très intéressant. Est-ce que depuis je sais pas une vingtaine ou une trentaine d'années dans l'armée, est-ce que ça s'est endurci, ça s'est assagi? On a tendance à dire que quand on prend du recul sur le monde civil, que plus ça va, plus il y a un laxisme débordant dans un petit peu près tous les domaines. Est-ce que l'armée a quand même conservé des standards élitistes dans les sélections, dans les comportements ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est vraiment à part par rapport à la société?
Moi, je vais parler de ce que je connais, puisque moi, j'ai servi dans la marine et dans les commandos marines. Nous, on n'a rien changé dans le cursus de formation et dans les tests. Ben, depuis l'origine de notre arme, c'est-à-dire le commando Kieffer qui a débarqué en Normandie en 1944, c'était tous les volontaires français qui traversaient la Manche pour rallier l'Angleterre, qui ont été formés à Clannery en Écosse. Et les parcours, les barèmes, rien n'a changé sur le côté rustique de mon époque à moi jusqu'à l'époque à aujourd'hui. C'est pour ça que je vous le disais en préambule, beaucoup de postulants pour très peu d'élus, parce que c'est vraiment très difficile. Et les fondations de base, elles sont faites autant pour les officiers au départ que pour le matelot, hein. C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais chacun a cette fondation de base. Et tout au long de votre carrière, quand vous voulez monter dans l'organigramme hiérarchique, vous êtes obligé de refaire un stage commando avec les mêmes critères physiques, pas changer la théorie en fonction du management que vous avez à avoir quand vous êtes chef d'équipe, chef de groupe et chef d'escouade pour commander un volume plus conséquent d'hommes. La théorie va changer, mais sur la partie physique, rien ne change. Alors ça veut dire, vous prenez mon exemple à moi, mon brevet supérieur, j'ai dû le faire quand j'avais 27 ans. 27 ans, une fois que j'ai fait le tronc commun et qu'après j'ai attaqué le stage commando chef d'escouade pour être dirigeant d'une escouade de 18 personnes, eh ben le physique n'a pas changé. Donc ça veut dire que la remise en question, elle est permanente. Et ça, c'est important, parce que même si vous pensez être sur vos acquis, rien n'est jamais acquis. D'où, dans notre unité, cette humilité. Et ça n'a pas changé. Mmh. Ça n'a pas évolué. Et aujourd'hui, en 2024, ben rien n'a changé sur les barèmes, sur les tests et sur cette rusticité qui permet de conserver ses compétences opérationnelles. Mais moi, je parle de ce que je connais et de mon arme à moi, et je ne connais pas l'armée de terre, je ne connais pas l'armée de l'air. Voilà, mais je pense que l'armée, en général, est la seule institution qui est beaucoup basée sur le on va dire, sur son origine, sur ses traditions et sur sa manière de formation. Elle sait que ça marche et que ça fonctionne, donc elle n'a pas de raison de changer ça. L'évolution, vous allez la voir sur la partie technique, c'est-à-dire qu'avant, ben, on avait peut-être un gros poste radio qui vous prenait tout le volume de la tête, et aujourd'hui, sur cette partie technique, ou sur l'armement et tout ce qui s'ensuit, voilà, il est adapté à la mission et l'amélioration matérielle, elle est importante. Mais par contre, sur le côté rusticité et formation, rien n'a changé, parce que si on vous enlève tout ce matériel et toute cette richesse qui vous sert à avancer, eh ben vous devez, avec rien, vous en sortir.
Hmm. Bon, et alors pourquoi ce choix de la marine plutôt que l'armée de terre, plutôt que l'armée de l'air? Je sais que vous avez été... Il y a eu un déclic, alors j'ai un petit peu lu quand même votre biographie, mais pourquoi ce choix sur cette armée-là?
Bah, si vous aviez lu mon livre, vous le sauriez. C'est une boutade. Mais
il faut me l'envoyer. Non, je peux pas le lire parce que je suis à Bali en Indonésie. Donc j'ai beaucoup de difficultés à me procurer les livres de certains de mes invités et des fois malheureusement je peux pas les lire.
Vous auriez demandé, je pense que mon éditeur avec grand plaisir il me l'aurait envoyé. Mais c'est pas grave. Mais en fait, j'ai raconté ça dans l'autobiographie que j'ai écrite qui voilà. Moi, je suis originaire du sud de la France, je suis de Marseille, je suis un petit délinquant qui va toucher un petit peu à la voyoucratie. Et puis, une dernière garde à vue un peu musclée. Et à l'époque, il y avait encore le service militaire. L'inspecteur de police, le jeune qui me reçoit après la garde à vue musclée, me demande si j'ai fait mon service militaire. Je dis non, je l'ai pas fait. Il me dit alors, vous allez aller cet après-midi à la caserne du Muy à Marseille pour aller devancer votre appel. Et quand vous revenez avec ce papier-là, je vous garantis qu'aucune charge ne sera retenue contre vous et vous partez pour très loin et très longtemps. Et avec le stress, je vais à la caserne du Muy. Et moi, qui ai perdu mon père jeune, en fouillant les affaires, j'avais trouvé un sac marin, ça s'appelle un sac boudin, marin blanc, avec dessus une caravelle dessinée, la caravelle, le bateau des conquistadors, hein, pas l'avion. Et là-dessus, je savais que mon père avait fait la marine. Et quand j'ai devancé mon appel, le fait que je devance mon appel et que je demande 24 mois, c'est-à-dire 2 ans de service militaire, 12 mois réglementaires plus 12 mois, j'ai le choix de l'arme et je prends la marine nationale. Et quand j'arrive devant l'orienteur, j'avais la chance d'avoir un parcours sportif puisque j'ai boxé très très jeune. Me dit, ben, puisque vous aimez le sport, une unité et une arme dans la marine qui est très sportive, c'est les fusiliers marins. Et voilà pourquoi je pars dans les fusiliers marins sans rien connaître à la spécialité, ni à la forme, ni au fond de cette spécialité. Et je pars dans les fusiliers marins, et quand j'arrive là-bas, que j'effectue mon service militaire, je trouve de la lumière, je trouve ma voie, et je m'engage et je reste 22 ans.
Ouais, donc ça vous a plu quoi. C'était pas une erreur de choix.
Non, mais c'est une fenêtre qui s'ouvre. Hein. Je le dis, ouais. Je dis souvent et j'en parle souvent. On est libre. On est tous des êtres différents, mais on est libre de ses choix. Mais par contre, il faut avoir quand même l'instinct animal et savoir quand une fenêtre ou une porte s'ouvre, la saisir et y aller. Du moment qu'elle respecte une philosophie d'honnêteté et de principe. Mais il faut y aller, quoi, quand ça s'ouvre. Et des fois, dans la vie, il faut faire des choix, c'est important. Et il faut choisir sans regarder derrière, c'est très, très important. Et moi, je suis un partisan des signes et des fenêtres qui s'ouvrent. Et je me dis, c'est là et j'y vais, quoi. Et je l'ai fait alors que j'avais que 19 ans. C'est pas une question d'âge. Plus tard dans ma vie, j'ai fait d'autres choix aussi à des âges différents. Mais il faut saisir l'opportunité et je suis un partisan de ça.
Est-ce que l'armée, c'est toujours le meilleur choix lorsqu'on est, enfin le meilleur choix lorsqu'on sait pas quoi faire de sa vie, s'il y a des jeunes peut-être ou des moins jeunes qui nous écoutent, qui sont un peu perdus dans leurs objectifs, est-ce que c'est toujours un choix raisonnable, un super choix de partir dans l'armée, de se dire je vais tenter là-dedans, Est-ce que ça corrige tout le monde aussi, tu vois, c'est une question que je me pose, parce que vous, ça vous est arrivé de faire ce choix qui a radicalement changé votre vie pour le bien à un moment où justement il le fallait, mais est-ce que ça peut correspondre à tout le monde dans cette même situation?
On est tous des êtres différents. La seule correspondance commune qu'on peut avoir, c'est la passion. C'est ce que je dis. Moi, je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé ma passion. Ma passion des armes, ma passion de l'effort physique, ma passion de... Voilà. Est-ce que si j'étais tombé sur un bon boulanger qui m'aurait formé, qui m'aurait instruit en faisant le pain et les croissants avec autant de passion, j'aurais peut-être été boulanger et meilleur ouvrier de France, peut-être. Ce qui détermine, là, c'est la volonté et la passion à faire les choses en se donnant les moyens de réussir. Il faut vraiment faire abstraction du côté matériel et se dire que quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on le fait avec amour, avec passion, ça inhibe tout le reste. Et aujourd'hui, la chance qu'on a dans cette société, c'est qu'on n'a pas de blocage là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, elle peut être capable de faire 5 ou 6 métiers dans sa vie. Voilà. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Qu'avant, on était figé. La personne qui s'orientait vers une carrière de plomberie, par exemple, d'être un plombier, toute sa vie, elle allait faire plombier. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a une grande liberté professionnelle. On peut être formé, on peut apprendre. Ce qui va déterminer les choix, c'est l'envie et la passion. Voilà. Après, l'armée, c'est pas la seule boutique qui peut permettre ça. Quel que soit le secteur qu'on a décidé de faire en se donnant les moyens d'y arriver. Et puis, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que des fois, on peut se tromper et que l'échec n'est pas une pénalité ou la fin en soi. On rentre dans un chemin et on s'aperçoit au bout d'un certain temps que c'est pas le bon, qu'on s'est trompé, et bon, on doit rebondir sur cet échec pour trouver vraiment sa voie et son chemin. Et c'est pas, on se nourrit justement de ces échecs-là pour être plus fort, pour être déterminé, pour avancer. Il faut arrêter de se dire, j'ai raté ça, c'est la fin du monde. Non, c'était que peut-être ce choix n'était pas le bon et que ce chemin n'était pas fait pour vous.
Est-ce que vous suivez un peu les actualités sur les intelligences artificielles et notamment comment elles pourraient être impliquées dans l'armée, dans les armées. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle ou pas spécialement ça?
Pas du tout. Alors je vais vous avouer que j'ai pas de télévision, je regarde pas la télévision. Il y a bien maintenant depuis pratiquement 3 ans ou 4 ans que je ne suis plus aucune actualité. Et l'actualité, je l'ai simplement quand j'ouvre mon portable et que dessus, il y a des rappels d'actualité, mais ça ne m'intéresse pas du tout parce qu'il y a tellement... Alors, le numérique, Internet et tout ce qui s'ensuit, a un côté, comme les réseaux sociaux, hyper pratique, hyper bien pour la communication parce que je m'en sers, moi, le premier, quand j'organise mes stages ou les choses comme ça. Mais à côté de ça, il y a tellement une partie néfaste de désinformation et qui perd la réalité de la terre, c'est quand on a les pieds bien ancrés dans la terre et le concret. On perd beaucoup de sens à ne pas communiquer, à ne pas aller voir les gens, à ne pas discuter, et souvent ça dégonfle tous les conflits qu'on peut avoir ou les a priori. Et on a perdu ça. On le perd malheureusement, et le problème de cette jeunesse, je vais pas faire l'ancien en disant de mon temps c'était comme ça, non, pas du tout, mais par contre on perd beaucoup de repères par rapport à ce numérique, et voilà, là vous voyez, vous parlez d'intelligence artificielle, moi qui suis et qui adhère le musée de tradition des fusiliers marins, il y a un livre qui est sorti sur Amazon qui a été fait par une intelligence artificielle et qui s'est permis de sortir un livre qui était une totale arnaque et qui racontait soi-disant la vie de notre dernier vétéran, Léon Gauthier, qui est décédé à 100 ans et qui était le seul des 177 qui avait débarqué en Normandie. Et c'est un livre qui avait été monté de toutes parts par une intelligence artificielle. Bon, le projet a été vite avorté parce que nous, on est une corporation assez forte et on a vite diffusé pour contrer cette fausse information. Et même le petit-fils de Léon, qui est un ami à moi et qui est aussi un ancien commando, puisqu'il a servi et il a fini officier, et on est de la même génération, a porté plainte contre cette chose, quoi. Si, voilà, vous voyez le côté néfaste. Et en même temps, dans le cadre de ma profession actuelle, je me sers de l'intelligence artificielle sur les vidéos dans le cadre de la surveillance ou de la protection des biens et des personnes, parce que c'est une aide sur le ciblage que je veux faire avec cet outil qui est aujourd'hui indispensable dans le cadre de la protection des biens et des personnes.
D'accord.
Moi, je suis un partisan comme dans le sport de combat. J'ai commencé par la boxe anglaise. Mais je ne dis pas que c'est le meilleur sport du monde. Moi, je vais aller me servir du karaté, je vais me servir du judo, je vais me servir de la lutte au sol, du jiu-jitsu, de toutes ces soumissions dans mon instruction, parce que je vais aller chercher tout ce qu'il y a de bon à prendre dans quelque chose et m'en servir. Mais par contre, je m'affranchis de tout ce qui est mauvais ou tout ce qui peut me desservir. Parce que c'est s'alourdir le package pour pas grand-chose. Ça ne me sert pas, je le balaye d'un clin
Efficience.
d'œil. Et je le mets de côté, quoi. Voilà, tout simplement.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous battre à main nue, enfin je veux dire combat rapproché lors de missions? Est-ce que justement cette réalité vous l'avez vécue vraiment sur le terrain
Ah oui,
du combat?
je l'ai vécu sur le terrain. Je peux le dire, puisque je l'ai raconté dans mon livre. Une fois, j'étais affecté à la protection d'une personnalité en territoire extérieur. Et puis, il nous semblait qu'il y avait une menace potentielle sur la personne que l'on protégeait, puisqu'on avait repéré quelqu'un qui faisait du renseignement. Et j'ai été l'interpeller à main nue, puisque même si j'étais armé, mais par contre. J'ai analysé opérationnellement le fait que je pouvais l'interpeller à main nue et je l'ai fait. J'ai neutralisé cette personne à main nue. Oui, ça peut être le cas et ça peut arriver, puisque même dans le cadre des unités spéciales ou l'emploi de la force, vous avez quand même un code de déontologie et un respect à avoir sur la manière d'utiliser votre armement, puisque vous êtes avec de l'armement, je vous le rappelle, qui est létal. Et vous êtes amené à vous en servir. Mais l'analyse opérationnelle vous permet éventuellement de neutraliser quelqu'un sans obligatoirement donner la mort.
Ok, et en mission, est-ce que c'est déjà arrivé?
Oui, c'est déjà arrivé en mission, oui.
Sur du corps, il n'y a pas. Bah alors, forcément, alors moi, c'est peut-être mon imaginaire aussi qui joue, mais dans cette situation, dans une situation en mission, il y a un peu l'idée que c'est vous ou l'autre. Il y en a qu'un qui doit rester, c'est un petit peu cette idée-là. Je veux dire, c'est un peu la mort en face. Alors, avec les armes, je pense que aussi, mais quand on touche la. L'adversaire, l'ennemi plutôt, quand on touche l'ennemi ou quand on est vraiment en combat rapproché avec lui, il y a un truc qui doit être très spécial. Enfin, pour le coup, là, il n'y a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas, on théorise pas quoi, là, pour le coup.
Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fin de compte, dans nos unités, notamment dans l'unité des forces spéciales et dans la marine nationale, vous attachez énormément d'importance, et c'est un process obligatoire de la préparation de mission. Vous faites rien au hasard. Vous avez toujours une solution principale, une solution secondaire, une solution de secours. Et quand vous préparez, rien n'a changé depuis l'époque de la Seconde Guerre mondiale, où ça s'appelait les opérations combinées, avant ça s'appelle les forces spéciales, les opérations spéciales, où la préparation est importante. Une préparation de mission se fait avec une mise au frigo, on appelle ça, où vous êtes hermétique à tout ce qui se passe à l'extérieur, et vous mécanisez la totalité de la mission, puisque quand vous préparez une mission, c'est une mission chirurgicale qui se fait avec donc une théorie au départ et un objectif bien défini. Ça veut dire que chacun connaît son rôle et vous mécanisez au maximum. Ça veut dire que normalement, si ça se passe dans le meilleur des cas, je parle dans le meilleur des cas, vous avez ce qu'on appelle, tout se déroule et l'objectif prioritaire est de partir avec l'ensemble du personnel et de revenir avec l'ensemble du personnel. Voilà. Mais vous avez une mission qui est définie. L'imaginaire des gens qui s'imaginent deux groupes en train de s'affronter face à face, ça n'existe plus, quoi. Ça n'existe pas. La mission s'adapte en cours d'action. Vous pouvez avoir des cas non conformes qui se produisent et vous avez, vous êtes pendant votre phase d'infiltration ou d'exfiltration, vous pouvez être au contact d'ennemis. Et là, vous avez des procédures d'opération spéciale avec de la réaction à avoir pour rompre le contact, pour la neutralisation. Mais les gens, dans 80% ou 80% des missions, tout se passe conformément à la préparation théorique que vous avez eue. Et ça se passe dans le meilleur des cas, même dans le cadre de, je vais donner un exemple bien précis, une extraction de personnes, de la récupération de personnes, d'otages ou de choses comme ça. Et ça se passe dans le meilleur des cas, comme vous l'avez décidé, et après le cours d'action. Mais il y a une énorme préparation théorique et une mécanisation qui se fait pour ne rien laisser au hasard. L'imaginaire des gens qui ne maîtrisent pas le sujet se disent, en fait, quand vous présentez aux autorités le président de la République et le chef des armées, le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, quand ils s'adressent ou faites une présentation aux autorités compétentes qui vont vous donner le vert d'action, vous avez préparé vos modes d'action et dans la préparation de vos modes d'action, vous allez orienter celui qui vous convient le mieux avec une probabilité de réussite à 99,9%, quoi. Que ça soit pendant la phase de mise en place, quel que soit le vecteur, pendant l'action en elle-même et pendant la phase d'exfiltration. Une autorité, elle va juger par rapport à la présentation que vous allez faire et elle va dire « Ok, on fait ça ». Mais la plupart, j'ai entendu dernièrement le chef d'état-major des armées qui s'exprimait et qui avait un bon discours, une bonne allocution là-dessus, et qui expliquait que la plupart du temps, comme le président de la République sans jugement, qui est le chef des armées, n'a aucune connaissance de la formation proprement dit, de ce que peut ressentir le militaire, quelle que soit son arme, mentalement et physiquement, tout au long de sa formation. En fait, il est la plus haute autorité de l'État. Il va dire oui ou non à l'action, mais celui qui va la préparer, qui va être formé pour, qui va lui présenter les modes d'action, ce sont les gens qui ont le domaine de compétence. Voilà, et c'est la grosse différence. Mais un président, il peut pas dire, un chef des armées ou un chef d'état-major, il peut pas dire, allez-y, avant, derrière, si vous voulez, ce que les gens, souvent conditionnés, comme tout le monde, hein, par le cinéma ou par la télé ou par les informations, ne savent pas derrière tout ce qui se fait. Et des fois, vous avez une mission qui est avortée, malgré toute la préparation mentale qu'il y a eu, physique et la mécanisation, le verre n'a pas été donné parce qu'elle ne se fait pas. Et vous pouvez avoir trois préparations pour une seule mission qui va se faire. Et autant, le commandement des opérations spéciales, il est bien fait pour ça, puisque vous allez chercher le meilleur des compétences dans chaque acteur air, terre ou mer. Voilà. Donc, en fonction de l'incident ou de l'opération qui va déclencher l'intervention, on va chercher les meilleurs, et vous avez des opérations qui sont faites avec les trois corps mélangés, air, terre ou mer. Vous pouvez avoir un groupe de 20 personnes avec autant de spécialistes commandos de l'armée de l'air que de l'armée de terre, que de la marine. Parce que chacun a son domaine de prédilection bien particulier et très pointu là-dessus.
Mais néanmoins, est-ce que ça arrive régulièrement qu'il y ait des imprévus pendant l'émission, même si tout est absolument calculé par rapport à l'ennemi, par rapport à une donnée qui n'avait pas été prise en compte?
Jamais de traitement là-dessus, c'est ce qu'on appelle des cas non conformes. Vous pouvez avoir un cas non conforme. Vous êtes persuadé qu'il va y avoir ça, mais comme vous êtes préparé au cas non conforme, je vais prendre un exemple bidon, je vous montre un exemple virtuel si vous voulez. Vous devez aller faire quelque chose sur un objectif bien précis, et pendant la phase d'infiltration, c'est-à-dire la mise en place et la phase d'infiltration, vous êtes en zone hostile, et vous allez avoir un contact avec l'ennemi, ce qui n'était pas prévu, puisque vous avez choisi un itinéraire normalement qui était saft, qui était propre et tout ce qui s'ensuit, sauf que vous allez tomber dessus, et ben là vous allez vous retrouver face à un cas non conforme et qui risque peut-être de faire avorter la mission ou de la reporter dans l'espace-temps. Ce sont des cas non conformes, mais la plupart du temps quand c'est bien préparé et que c'est bien amené, prenez l'exemple des Américains pour l'opération en Afghanistan où ils tombent sur ce jeune berger, je crois qu'ils en ont fait une adaptation cinématographique après derrière, où ils ont pris la décision, le groupe, de ne pas le neutraliser, c'était un cas non conforme, ils lui ont laissé la vie parce que c'était un jeune enfant, mais c'est lui, ce jeune berger après, qui est allé prévenir le village qui avait effectivement des soldats qui étaient présents, et ça leur a fait avorter leur mission, quoi. Voilà, donc je veux dire, ces cas non conformes, vous ne pouvez pas, c'est impossible de tout savoir et de tout préparer. Même si vous avez, c'est pour ça que sur une préparation de mission, les gens ne s'imaginent pas, mais les spécialistes du renseignement qui sont les gens du 13, eux peuvent être en place déjà depuis un mois, 15 jours sur place, et vont vous permettre de confirmer le renseignement et de préparer les choses pour ceux qui vont arriver après. Que ça se passe dans le meilleur des cas. Et voilà, c'est comme ça, c'est vraiment une machine qui se met en place dans le cadre d'une mission avec beaucoup de moyens humains, beaucoup de moyens matériels pour lancer le verre de la mission. Et ce verre, il peut être avorté parce qu'à la dernière minute, il y a quelque chose qui se passe mal ou qui se passe pas comme cela devrait se passer. Donc, on n'expose pas, on préfère patienter et attendre.
Ok, et vous, à titre personnel, dans votre carrière, est-ce que le contact avec l'ennemi ou disons l'imprévu en milieu hostile, il est arrivé souvent? Il est arrivé peu de fois? Ça se compte quoi, sur les doigts d'une main?
Je ne parle pas de ça, moi, j'en parle jamais. Jamais vous verrez, comme notre ancien qui est parti, Léon Gauthier, jamais on parle de ça. Ça, c'est des choses qui sont personnelles, qui sont intimes. Et elle ne regarde que la confrérie ou que les gens qui ont servi la même arme que vous. Voilà, ce sont des discussions qui ne. Alors c'est pas, il faut pas le prendre mal, hein. Mais c'est des choses qui ne.
Non, mais je comprends.
Qui ne se racontent pas. Qui ne se racontent pas. Et il n'y a pas de gloire à parler de ça. Voilà, on a un métier. L'assureur, il aura son stylo pour faire signer les contrats. Eh ben, les gens qui servent la France, qui sont sous les drapeaux, eh ben, avec eux, ils ont une arme, et cette arme, eh ben, il faut savoir qu'elle peut servir à neutraliser du personnel, et ça fait partie du contrat, quoi. Mais c'est un contrat moral qui est personnel, et qui rentre dans des règles bien établies, quoi, des règles d'engagement bien établies.
Oui, non, alors de toute façon, j'allais même pas demander si vous avez déjà servi de l'arme, tout ça. Enfin, je trouve que c'est des questions qui sont un petit peu bulldozer que j'évite de poser. Mais justement sur un peu le secret des missions, il y a de plus en plus de personnes qui sont devenues des personnalités qui aujourd'hui parlent de leur mission, soit qui en font des bouquins, soit qui en parlent en interview, quoi que ce soit. Il y a un peu la parole se libère sur les unités spéciales, sur les commandos, tout ça. Est-ce que pour vous c'est un problème que le grand public ait accès à des historiques de missions ou pas, ou c'est juste à titre personnel que vous préférez garder ce genre d'informations? Vous aimeriez également que tous les collègues et toutes les personnes qui soient dans le milieu fassent de même?
Non, je pense honnêtement, enfin, alors, en toute humilité, je pense que je dois être un des premiers à avoir écrit de la dernière génération, on va dire la dernière génération du feu, entre guillemets, à avoir écrit quelque chose ou en parlant un petit peu. J'ai beaucoup plus axé sur la formation, sur mon histoire personnelle du départ qui m'a amené à servir dedans. J'ai raconté une petite partie de l'opérationnel. Après, derrière, ça, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres, hein. Je crois, j'ai pas en tête, hein, tous les, mais je crois pas qu'ils dévoilent vraiment l'opérationnel, ou quand ils parlent de quelque chose, c'est que déjà, ça a été largement évoqué par la, par la presse sommairement et qui vont peut-être un peu plus dans le détail pour établir une vérité sur certaines choses. Mais voilà. Mais j'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. Moi personnellement, l'écriture a été, j'ai toujours écrit, et l'écriture a été pour moi un espèce de moyen de m'évader. Et le fait de poser les mots sur une feuille, sur du papier, eh ben, c'est une très bonne psychanalyse. Je le conseille à beaucoup de gens. Alors que ça soit mis au public ou pas au public, peu importe. Mais en tout cas, c'est un très bon moyen pour évacuer un peu, pour larguer les sacs qu'on peut avoir sur le côté psychique, pardon, et qui vous dérange après tout au long de votre vie. Voilà. Mais après, sincèrement, sur les toutes dernières opérations qu'il y a pu avoir ces 10 dernières années ou 15 dernières années, il n'y a pas beaucoup d'écriture là-dessus. Hein, c'est beaucoup plus une culture, je pense, américaine que française. Les Américains aiment bien écrire là-dessus, ouais. Voilà. Mais nous, je crois qu'il y a une espèce de discrétion, d'humilité, comme je vous ai dit au départ, une espèce d'humilité qui fait partie du package du militaire, et ça en fait partie. Voilà. Après, ben, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Je pense à quelqu'un, mon frère d'armes, Louis Saillant. Louis Saillant qui a écrit un livre dessus que j'ai pas lu, hein. Louis, il sait, je lui ai dit, puisqu'on en a parlé ensemble et puis j'avais fait une interview pour lui, pour vétéran de France. Voilà, il a écrit une partie, mais après il continue dans sa démarche et un état d'esprit bien particulier à faire des interviews avec tous les anciens qui racontent des fois des faits d'armes ou autre chose. Mais je pense que c'est plus quelque chose qui libère. Plus que quelque chose qui a un sens ou qui veut mettre en avant ou faire partie du vantarisme, ça en fait pas partie, quoi. Voilà, c'est plus l'histoire de se libérer de quelque chose et de remettre peut-être en place certaines vérités et faire toucher aux personnes qui ne connaissent pas la sensibilité humaine que l'on peut ressentir dans ce genre d'action. On est plus sur une communication humaine que autre chose, quoi. Voilà, c'est mon point de vue à moi, personnel.
D'accord. Et alors, la santé quand on est commando marine, c'est quoi la vision de la santé et de la longévité? Alors, il y a la santé, le fait de rester en vie déjà et d'être en forme physique et mentale, mais sur le côté longévité, vouloir faire les choses bien pour son propre corps. Vouloir bien se nourrir, vouloir bien se reposer, récupérer. Est-ce que tout ça compte ou c'est complètement mis de côté pour être uniquement dans la performance la retraite?
Alors, on est totalement différents là-dessus. Tous, hein, je parle là-dessus. Vous avez des gens de chez nous qui ont quitté et qui ont pris 25 kilos. Et voilà. Après, vous avez des gens comme moi qui continuent comme si demain j'allais repasser les tests, on allait me faire un papier avec marqué dessus inapte. Donc je continue mon entraînement de poids de corps avec une alimentation toujours saine et tout ce qui s'ensuit. Et puis après vous avez comme je le disais d'autres personnes qui ont totalement lâché le morceau et qui ne prennent plus soin de leur corps ou de leur voilà. C'est vraiment et ce qui est marrant, c'est quand on se retrouve tous ensemble, eh ben on n'a aucun jugement là-dessus. Et on n'a aucun tabou à évoquer, tous nos problèmes personnels ou professionnels. Et on n'est pas là, on n'est pas dans le jugement parce que ça fait partie de notre culture. Voilà, mais ça c'est vraiment une liberté propre à chacun, quoi. C'est très aléatoire et très contradictoire. J'ai connu des gens que je retrouve des fois dans les amicales ou lors de cérémonies. Qui était très très fort physiquement et tout ce qui s'ensuit, et puis qui ont tout lâché, voilà, qui ont du jour au lendemain où ils ont arrêté, ils ont décidé de plus du tout courir et de plus rien faire physiquement, et c'est assez marrant, mais il n'y a pas de jugement là-dessus. Et puis voilà, des personnes comme moi ou bien d'autres qui continuent à s'entretenir physiquement avec derrière un espèce de petit stress en se disant au-delà du bien-être personnel, en se disant mince, si je suis plus apte, ben ça risque de me pénaliser. Vous voyez, on a des petites cases comme ça, des barrières qu'on se met dans le cerveau et qui restent. Mais c'est vraiment propre à chacun, quoi. propre à tout individu. Et s'il y a une grosse différence, chaque être là-dessus, quoi.
Et est-ce qu'il y a aussi des différences sur l'acceptation de l'autorité ? On a du mal à s'imaginer dans des commandos, dans des unités d'élite, certains membres qui auraient de la difficulté avec l'autorité, avec les ordres, qui seraient un peu plus rebelles. Est-ce que ça existe quand même ?
Non, on est tous des loups. On est tous des loups là-dedans. Si vous êtes un agneau, vous faites manger. On est tous des loups. Sauf qu'il y a un grand respect du domaine de compétences et de la position hiérarchique de tout un chacun. C'est très important. Et ça, on le respecte parce que, en fait, c'est des unités où chacun est spécialiste et professionnel et expert dans son domaine. Donc, vous n'avez pas à le contrôler pratiquement. Quand il fait quelque chose et que vous lui dites de faire quelque chose, il va le faire et il va le faire correctement. C'est la grosse différence. D'accord. Il y a pas besoin de contrôle sur certaines choses et sur la quasi-totalité des choses. Chacun a sa partie. Et quand je vous parlais tout à l'heure de préparation lors d'une mission, quand chacun est responsable d'une séquence ou d'une partie dans la mission, il le fait avec un tel professionnalisme et une telle rigueur qu'il n'y a pas besoin. Et on parle chez nous le besoin d'en connaître en fonction de votre position dans la chaîne hiérarchique. Et ça fait partie de l'opérationnel. Eh ben, vous allez avoir le besoin d'en connaître et connaître qu'une seule partie, ce qui vous permettra que si jamais vous êtes pris par l'ennemi, vous ne pourrez pas donner la totalité. Voilà, vous voyez ? Et ça fait partie des, sans dévoiler de secrets, ça fait partie des choses. Donc, effectivement, il n'y a que des loups, il n'y a que des caractères forts, mais chacun connaît sa place et sait où est sa place. Et si jamais il veut prendre la place de l'autre, eh ben, il faut qu'il s'en donne les moyens, autant sur le plan théorique dans la formation, d'aller suivre les cours ou d'aller dans son choix de carrière pour être au-dessus et après faire les choses à sa manière. Mais le fil conducteur est là. Mais on n'a pas de problème avec ça parce que chacun connaît son travail et est un expert dans son travail.
Ok, bon, y a beaucoup d'éducation finalement. Enfin, c'est, j'imagine qu'il y a une grosse part de alors déjà tout le monde risque sa vie. Il y a aussi beaucoup d'éducation dans la façon dont les informations sont transmises, dont les valeurs sont transmises, qui fait qu'on arrive à canaliser donc ces loups aussi.
La canalisation, elle se fait naturellement, hein, puisque de toute façon, vous avez là, si vous faites pas votre travail correctement, vous allez pénaliser l'ensemble du groupe. Déjà. Alors, vous êtes obligé de mettre votre ego de côté, logiquement et obligatoirement, parce que vous travaillez pas pour vous, vous travaillez pour l'institution dans un esprit de collectivité, de respiration collective. Donc, il y a même pas besoin de s'imaginer. La performance que vous voulez faire individuellement, vous allez la faire à un moment donné sur votre parcours physique, ou quand vous êtes sur, je vais dire un exemple qui me vient en tête, eh ben, il y a le cross de 12 km, ben, vous voulez vous faire plaisir égoïstement et vous tirer dessus, ben, vous allez finir premier au cross. Et vous allez vous dire, effectivement, je suis bon physiquement, et cette victoire, vous la savourez, mais en fait, cette victoire, elle est pour vous, et en même temps, elle est au profit des autres, parce que votre capacité physique et votre physique va aider l'ensemble du groupe, quoi. Chacun à son niveau, mais c'est, voilà, c'est, l'ego, vous le mettez de côté. Il n'y a pas d'ego. C'est ça qui est important. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire parce qu'il n'y a que des loups, mais il n'y a pas d'ego. Parce que chacun connaît sa place, comme dans la meute, hein. Il y a un chef de meute. Et puis, vous avez les loups derrière. Chacun connaît son travail. Le chasseur, celui qui protège, celui qui va surveiller les arrières, celui qui va être pour la cohésion, chacun son rôle. Bien défini, ça se fait naturellement, c'est ça qui est impressionnant. Et comme je vous disais précédemment, la grosse difficulté du civil, où les gens n'ont pas ça, ne comprennent pas ça, parce qu'il y a beaucoup d'ego, d'égocentrisme, et en même temps un peu d'égoïsme aussi, de l'égoïsme, où chacun va travailler pour sa paroisse, sans avoir vraiment la culture de l'entreprise. Et c'est la grosse différence.
Ouais.
Et nous, derrière, on n'a même pas l'aspect financier. Je parle de ça maintenant, avec 20 ans de recul dans le civil.
Mais est-ce que justement, parce que là, quand on voit, c'est une question de... Enfin, il y aurait plein de choses qui pourraient être transposables de l'armée au civil pour que ça se passe mieux, ou même dans une entreprise. De toute façon, vous intervenez en entreprise aussi, j'imagine.
Oui.
Voilà, pour tout ce qui est, pour toutes ces valeurs-là. Mais est-ce que la grosse différence, c'est le fait que la vie soit pas en jeu dans le civil, et qu'en fait ça, cet élément-là, ça change absolument tout, et qu'on a beau essayer de mettre en place des systèmes, des process, des façons de voir les choses, des éducations. Tant qu'il n'y a pas ça, ça ne fera jamais, ça ne sera jamais pareil.
Non, ça serait trop. C'est utopique de dire ça. Je pense que c'est plus une question de sensibilisation de tout à chacun et un vrai travail de communication qu'il faut avoir et que les gens comprennent que qu'il ne faut pas couper la branche sur laquelle ils sont assis ou couper la main de celui qui te donne à manger. C'est un peu l'expression que je pourrais avoir là-dessus. Il faut avoir de la fierté pour son entreprise, de la fierté pour ce qu'elle réalise et que l'exemple reste le meilleur moyen d'influence. C'est-à-dire que si le directeur ou le PDG ne montre pas un exemple à suivre, il ne peut pas avoir l'adhésion de ses subordonnés. Et que ça soit collaborateur sur la même ligne transversale ou sur de la hiérarchie montante ou descendante, il faut de l'exemple. Et l'exemple est très important. Et souvent, dans les entreprises, il manque cette cohésion parce que les gens travaillent un petit peu pour leur paroisse à eux et ne savent pas s'ouvrir aux autres. Quoi. C'est ce qui manque dans une entreprise. Mais ça serait vraiment utopique de dire il faudrait que dans l'entreprise, les gens y mettent leur vie en jeu parce que ça serait vraiment énorme. Dans le militaire, quelle que soit l'arme, je pense qu'au départ, la souffrance de la formation, la souffrance physique, la cohésion, elle naît, elle se crée. Alors, dans une entreprise, vous ne l'avez pas. Imaginez que demain, vous devez rentrer dans une entreprise, on vous dit, OK, pour intégrer l'entreprise, il y a l'entretien, le CV, votre domaine de compétences, mais à côté, vous avez une marche de 8 avec 11 kilos sur le dos, deux cordes à monter avec un paillet, et là, on rentrerait dans une dominante de discrimination qui n'est pas cautionnée par le code du travail et qui créerait bien des problèmes. Alors, les entreprises essayent de pallier à ça et de contrer ça avec des intervenants extérieurs de la communication ou, par contre, avec des activités de cohésion qui peuvent faire la différence. Mais dans ce genre d'activités de cohésion, c'est là où il faut réussir tout niveau hiérarchique d'enlever sa casquette d'entreprise, c'est-à-dire je suis le PDG mais je me mets au niveau de tout le monde, je suis l'ouvrier mais je me mets au niveau aussi du PDG, parce qu'attention, hein, c'est pas toujours le haut qui est mauvais ou le bas qui est mauvais, hein, c'est comme ça, et arriver à avoir une espèce de cohésion où tout le monde vient pour le plaisir pour voilà, et l'échange. C'est ce qui manque des fois. Je prends mon exemple à moi. Moi, j'ai réussi à le faire avec mon personnel, alors que j'avais des grosses difficultés, par exemple, c'était à déléguer, quoi, déléguer les choses. Hein. Moi, il fallait que tout passe par moi, et parce que je centralisais, parce que j'avais pas confiance. Et aujourd'hui, j'ai réussi à faire confiance en expliquant aux gens que, en fait, on peut se tromper, ça arrive. Hein, c'est pas parce qu'on s'est trompé que ça met en péril ou ça met en échec. Hein, tout dépend bien sûr le degré et la faute. La vérité, ne pas mentir, une philosophie d'honnêteté. Et puis après, le fait de faire confiance et d'avoir une grande confiance en sachant que la communication, et par exemple moi qui ai un poste à responsabilité, la porte de mon bureau est toujours ouverte, on peut toujours échanger. Et en même temps, j'ai instauré une espèce de rigueur hiérarchique où tout le monde connaît sa place dans l'organigramme hiérarchique et qu'il ne doit pas aller prendre le travail d'un autre, mais par contre, il peut apporter quelque chose. Et je vais vous donner un exemple bien précis sur le plan syndical, les partenaires sociaux. Moi, qui n'avais aucune connaissance des partenaires sociaux, je suis dans une boîte, une société où les partenaires sociaux sont là et sont présents. Mais par contre, moi, mes représentants syndicaux, je leur dis quand vous venez me voir avec un problème, c'est que vous avez dans votre besace trois solutions. Une solution principale, une solution secondaire, une solution de secours, ce que j'ai appris dans mes unités non conventionnelles. Et puis, ça permet d'avoir des échanges tout à fait courtois. Et si leur solution, elle est bonne et qu'elle apporte quelque chose à l'entité et à la collectivité, ben moi, j'ai pas honte de dire je leur prends la solution, je la mets en place et en plus, je les valorise en disant elle vient pas de moi, elle vient de mes représentants, ou elle vient de telle personne qui n'est pas du tout en haut de la chaîne hiérarchique. Voilà. Et ça, l'échange et la communication qu'on perd un petit peu avec les mails, avec les réunions, comme on est en train de faire par vidéo, mais nous, c'est la distance qui nous oblige à faire ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, même le bureau, il se trouve à 200 mètres là-bas, eh ben, les gens, ils vont faire une réunion Teams. Voyons-nous, discutons. Voyons. Et ça évite bien des problèmes, quoi, le fait de ça.
On parlait de la technologie tout à l'heure.
Je parle sur le territoire national ici, on est trop sur un principe de caste où il faut faire changer. Alors, parce que je suis ouvrier, je vais pas aller discuter avec le patron parce que le patron, lui, il est riche et puis il a. Vous voyez, c'est tout ça, il faut changer ses mentalités. Alors, c'est dur parce qu'il y a des ancrages hein, quand même là-dessus. Mais il faut arriver à le faire. Et ça, ça peut se faire qu'avec les échanges et la communication, quoi. La communication, le fait de parler et de discuter avec les gens. Et puis, savoir dire aussi, alors, ce que les gens ne savent pas faire dans le civil, et je l'ai appris, moi, je l'ai mis en place, dire quand c'est bien et dire quand c'est pas bien. Dans le civil, les gens, ils savent souvent dire tout ce qui n'est pas bien.
Quand c'est pas bien.
Mais jamais, moi, je fais des lettres de félicitations. Quand mon gars, comme à l'armée, quand mon gars et mon personnel, a fait quelque chose de bien, ben je fais une lettre de félicitations qui sera portée dans son dossier à la direction des ressources humaines et qui valorise l'individu parce que c'est important dans la vie pour avancer de se sentir valorisé quand on sort major d'un cours on a cette espèce de gloire et de victoire intérieure qui vous permet d'avancer, c'est le moteur de la vie quoi. Et si on sait pas le faire, moi à l'école j'étais pas bon à l'école et tellement de professeurs m'ont dit que j'étais un cancre et que j'étais nul que j'ai failli le croire. Et quand aujourd'hui j'interviens dans des collèges ou dans des lycées en présentant mon livre, moi au fond de moi-même je me marre tout seul et je me dis oui, j'ai écrit un livre tout seul sans besoin de personne et aujourd'hui on le présente à des élèves parce qu'il y a des élèves qui voulaient étudier ce livre-là dans leur cours de français et il y a des professeurs intelligents. En fait, il n'y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais professeurs. La vérité elle est là. C'est ça la vérité. Et c'est une phrase que je répète souvent, mais elle est là. Il n'y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais professeurs. Si on sait transmettre sa passion, son envie et son bonheur à faire les choses, on peut arriver. Et comme je le disais précédemment, eh ben peut-être que votre discours, il intéresse pas certaines personnes. Ça veut dire qu'elles sont pas faites pour ça. Eh ben il faut qu'elles fassent autre chose. Voilà. Mais ce qui emporte la totalité de ça, c'est la passion et l'amour des choses.
Ok. Est-ce que vous avez eu des blessures dans votre carrière militaire? Des blessures graves?
Non, pas graves.
Ou moins. Bon, alors des moins graves.
Ouais, moins graves, j'en ai eu quelques-unes. J'ai eu une arcade explosée par une munition. Mon corps, je ferai un mauvais vieux, ça je le sais. Bien entamé par le nautisme et le parachute et par le fait de tirer constamment sur la corde, même si je continue encore aujourd'hui et voilà là je suis en train de vous parler, mais je rentre d'Italie là, j'arrive d'Italie, ça fait 3 ou 4 jours que j'ai un mal de dos phénoménal et bas du dos, mais voilà, mais c'est comme ça. Mais après moi je m'écoute pas quoi, là-dedans ça s'envole. Je vais pas faire des choses qui me voilà, et ben ça fait partie de la vie quoi, ça fait partie des choses, mais franchement dans l'ensemble je m'en sors bien quoi, je trouve. Moi je suis assez positif sur ces choses-là quoi.
Ouais, mais est-ce que vous prenez par exemple des compléments aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour essayer de maintenir le plus possible l'intégrité ou la santé?
En complément, alors je prends de la levure de bière, moi. La levure de bière qui est bon pour les cheveux, la peau et les ongles. Alors, vous allez me dire, c'est, voilà, j'aime bien. D'accord. Ça. Je suis quelqu'un qui fait attention à mon physique, hein. Depuis 2 ans, je prends en complément alimentaire des gélules de pépins de courge, hein, ce qui vous permet d'entretenir votre prostate, hein, puisque les hommes, c'est le problème qu'on peut avoir là-dessus. Donc voilà ce que je prends en complément alimentaire. Mais après, le reste, honnêtement, non. Moi, je mange pas de, je mange très léger le soir. Je mange pas de fromage le soir. Tout ce qui peut me pénaliser la nuit quand les organes sont au repos et que les organes se récupèrent. Je suis pas quelqu'un qui consomme énormément d'alcool. Je bois un bon vin, un bon verre de vin de temps en temps quand il y a du monde ou des choses comme ça. Et voilà. Mais à part ça, je prends pas de protéines. Je prends pas de trucs particuliers. Non, je fais attention à mes quantités et à avoir une alimentation normale sans me priver. Je suis pas un frustré là-dessus et voilà quoi, sans plus.
Ok. Et en termes de, par exemple, je sais pas, est-ce que vous voyez des professionnels de santé? Est-ce que vous avez essayé des, ouais, est-ce que vous faites des bilans régulièrement, médecin, paramédecin, enfin paramédecin,
chaque année,
ostéo, naturo,
Chaque année depuis que j'ai quitté la marine, je continue à faire annuellement une prise de sang avec un bilan total sanguin.
Ouais.
Voilà, c'est mon rendez-vous médical annuel, au même titre que le dentiste. Chaque année, je vais chez le dentiste pour faire un bilan complet de la dentition. C'est un peu des trucs personnels, mais je vous les donne. Moi, j'ai pas de secret à avoir. Donc voilà,
ouais,
chaque
non,
année
mais
mon
t'en
bilan
connais.
sanguin, et chaque année mon dentiste.
Ok, bon, ça casse quand même une carrière en commando marine physiquement. Est-ce que ça permet plus de se maintenir ou est-ce que ça, quand même, ça casse physiquement? J'ai l'impression que là aussi, parce que j'ai reçu quelques personnes qui avaient été dans les forces spéciales, il y a un peu des deux. Il y a la discipline de garder un corps de fer et puis il y a aussi toutes ces années cumulées qui finissent par fatiguer, quoi.
Mais bien sûr que ça vous, c'est quand vous avez 60 kilos sur le dos et que vous crapahutez avec, ou que vous faites 30 km en courant avec votre sac de 17 kilos, ça vous fait pas du bien aux articulations et aux choses comme ça. Donc dans le temps, après le mental prend le dessus sur les choses, le fait d'avoir un entretien derrière et continuer, mais avec beaucoup plus de plaisir et d'entretien que de le fait de forcer là-dessus. Eh ben, ça va, ça vous permet de vous maintenir en forme. Mais 22 ans avec deux postes comme instructeur au stage co, c'est sûr que ça vous met quand même quelques petites claques physiquement, quoi. C'est normal. Mais aujourd'hui, sur ma force pure, moi par exemple, mes entraînements où je fais 150 tractions pour mes dorsaux, j'ai pas bougé là-dessus, hein. Je fais toujours 5 fois 10, 5 fois 8, 5 fois 6, 3 fois 10. Je fais 150 tractions en un quart d'heure, ça m'a jamais pénalisé, quoi. Et je continue à les faire, hein. Je fais mes
Ouais,
dix
c'est bien.
cours à la force des bras, hein. Ça m'a jamais pénalisé non
C'est
plus.
eux. Ouais.
La seule chose que j'ai diminuée, c'est je cours plus. Je fais du vélo. Je fais 1 heure de vélo, 1 heure de vélo en salle, 1 heure de vélo en salle le dimanche. Et après, tous les jours avant d'attaquer ma séance de sport, je fais 20 minutes de vélo. Voilà. J'ai arrêté de courir parce que la course traumatise trop les articulations, elle fait taper, ça esquinte.
Il y en a un qui est impressionnant aussi à son âge, c'est le major Gérald. Hein. Bon, ça, je pense que tout le monde l'a
Ouais,
vu. Il a
il est pas
une.
jeune, hein, oh, il est jeune. Il a 40,
Bon,
il
il a
a 40
50
et
ans.
quelques, il a 40 et quelques années, hein.
Oh, il s'approche pas de la cinquantaine, major Gérald?
Il a 44.
D'accord. Moi, je pensais qu'il avait un petit peu plus. Bon, ben, de toute façon, il va garder
J'ai un
sa
stage avec lui
condition.
au mois de juillet.
Ok. Quel genre de stage?
Alors, on fait un stage d'aguerrissement qui est organisé par Défense Tactique à Rennes au mois de juillet 2024. Et on est les deux têtes d'affiche pour l'organisation de ce stage.
Ok. On vous a vu donc sur quelques émissions télé, mais par contre, on vous a pas vu sur YouTube trop participer, faire des collaborations avec des coachs, avec des youtubeurs ou même des vidéos avec le Major Gérald. Est-ce que c'est un choix de pas vouloir apparaître en vidéo trop souvent ou alors c'est juste que les occasions se sont pas présentées?
Non, c'est un choix, c'est bon. Je veux dire, j'ai les réseaux sociaux, j'ai un Facebook avec un compte Instagram où je mets pour mon association les stages où je fais des petites minutes philosophiques sur des mots ou des réflexions. Voilà. J'ai une chaîne YouTube qui est plus à réflexion où je mets des états d'âme ou voilà pour aider les gens, mais sans plus. Mais après le reste, non, j'ai pas besoin de ça. Et puis, je vois pas l'utilité, ma propre utilité là-dessus, j'en ai pas besoin, quoi.
Vous avez jamais été démarché par Karate Bushido pour faire une vidéo type combat self-défense, par exemple?
Si, une fois, mais Greg ouais, MMA, il est
pas intéresser, ça.
Il a reporté son déplacement au stage. Il devait venir sur un stage d'aguerrissement, et puis après, ça s'est pas fait, il est pas venu. J'avais été contacté par son... Bah ouais, c'est Karate Bushido, c'est ça, j'avais contacté. Il devait venir à un stage que j'organisais dans les Bouches-du-Rhône à Signan. Et puis, à la dernière minute, il est pas venu, il est pas venu au stage. Bon, il devait avoir peut-être un souci d'ordre professionnel, je sais pas. Donc, du coup, voilà. Et après, de toute façon, moi, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux là-dessus, quoi. Quand on vient me démarcher pour des choses, je dis oui ou je dis non, mais en toute simplicité, je fais ce qui m'intéresse, quoi. J'ai pas de contraintes particulières là-dessus, quoi. Et ça, c'est un gros avantage et une grande liberté.
Qu'est-ce que vous refusez, par exemple, en termes de participation, d'émission? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes absolument intransigeant sur le fait de ne pas y participer?
Les gens m'ont souvent ennuyé sur l'histoire quand j'avais fait Garde à vous et le sens de l'effort. Ce qu'ils ne savent pas derrière, c'est que le programme, c'est moi qui l'ai écrit et adapté avec Studio 89, la filiale d'M6. Derrière ces affaires-là, il y avait toujours un but associatif, puisque les jeunes qui participaient, par exemple, pour le sens de l'effort, avaient droit à un bilan de compétences payé par la production. Et s'ils allaient jusqu'au bout du stage, ils pouvaient, leur formation était payée par la production. Donc, voilà, dans ce sens-là. Et après, moi, j'ai toujours refusé. Une fois, j'avais été contacté par ceux qui faisaient ce style d'émission, là, avec les Marseillais ou je sais pas quoi, et ils voulaient me faire faire ils m'avaient demandé pour faire un coaching sur du parcours et tout ça. J'ai toujours refusé ces choses-là. Je vais pas critiquer, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ça m'intéresse pas du tout, et j'ai pas envie d'aller montrer ma bobine à des émissions dont le sens, la forme et le fond ne me plaisent pas, quoi. Voilà, j'ai rien, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la vie. J'ai la chance d'avoir cette grande liberté, donc je dis oui ou je dis non.
Ok. Une petite question, bon, vous êtes libre d'y répondre ou pas, parce qu'elle peut être un peu tricky pour certains. Est-ce que dans l'armée aujourd'hui, vous voyez des choses qui vont pas? Parce que jusque-là, on a beaucoup... on a encensé un petit peu le monde de l'armée, comme quoi c'est ça éduque bien, ça il y a une bonne discipline, ça permet aux gens de se révéler. Est-ce qu'il y a quand même des côtés négatifs, quoi?
Le seul côté négatif que je donnerais, c'est au moment de la reconversion pour les gens. Je pense qu'il manque, même s'il y a des efforts qui ont été faits, par exemple, entre le ministère de la Défense et le ministère de l'Éducation nationale, où aujourd'hui, fort heureusement, chaque domaine de compétences de l'armée a été transformé en un domaine de compétences de l'éducation civile, avec une validation des acquis d'expérience qui donne une reconnaissance avec un diplôme reconnu dans le civil. Ça a été un grand pas en avant et c'est formidable. Ça veut dire que le militaire, quand il quitte, mais aujourd'hui, là où le bas blesse encore pour certaines armes comme l'armée de terre, je pense, la gendarmerie ou autre chose, c'est au moment de la reconversion. Le manque d'informations, le militaire est encore obligé de se dépatouiller un peu tout seul. Voilà, c'est le point noir que je dirais. Nous, on a la chance, les anciens commandos, d'avoir des associations et d'avoir des organismes entre frères d'armes où on peut échanger beaucoup et partager ces choses-là. Mais au sein du ministère de la Défense, ça manque un petit peu dans le cadre de la reconversion pure et dure, pour aider la personne à s'intégrer et à retrouver dans le secteur professionnel et ben une même aisance et une même stabilité. Voilà.
Très bien. Dernière question, avant mes trois questions habituelles de fin pour conclure. Vous avez parlé tout à l'heure que vous travaillez de plus en plus dans le cinéma pour la crédibilité de certaines scènes. Est-ce qu'il y a un film en particulier, un film là que vous avez... pour lequel vous avez participé, qu'on a pu voir sortir, hein, ou comment?
Force spéciale avec qui a été dirigé par Stéphane Ribaujat, Force spéciale. Et ben voilà, on a amené les acteurs en formation à Lorient pour être formés. J'ai été conseiller technique et tactique sur le film, dans le cadre des procédures d'opérations spéciales, notamment sur les réactions et l'utilisation des armes sur les réactions au contact. Voilà, je vous donne l'exemple bien concret, force spéciale. Après, j'ai travaillé sur nos limites avec Vincent Elbaz là-dessus, sur une partie bien particulière du premier nos limites là-dessus. Voilà. Et là, je suis aussi en projet où je dois travailler janvier sur un film produit par une production anglaise, où on doit travailler aussi pareil sur de l'assaut. De l'assaut avec les trois dimensions prises en compte, air, terre et mer, où je dois faire du conseil tactique et technique.
Ok, c'est intéressant ça, ça vous plaît?
Oui, j'aime bien. J'aime bien parce que je peux donner un peu de crédibilité par rapport à mon expérience, tout en sachant que dans le cinéma, on essaye toujours de vous faire avaler des couleuvres, même pas des couleuvres, c'est des boas, et parce que derrière la production, on veut toujours des choses un petit peu spécifiques et ne connaissent pas trop. Alors bon, moi j'ai une facilité d'adaptation. Et j'arrive à imposer un petit peu ma patte pour donner de la crédibilité aux choses, quoi.
Ok, très bien. Bon, on va finir avec les trois petites questions de fin. J'aime bien pour conclure les épisodes. Si on pouvait revenir une dizaine d'années en arrière aujourd'hui, est-ce qu'il y a un conseil spécifique que vous auriez eu besoin d'entendre?
Combien d'années en arrière?
20. Allez, je change. Enfin, je change. Non, je dis, en général, si je dis autour d'une dizaine, mais là, je vais dire 20 pour que ça soit un petit peu plus cohérent.
Et si on avait un conseil à me donner?
Ouais, si vous aviez un conseil à vous donner.
Un conseil à me donner à moi?
Ouais.
Ne rien changer. Je referais exactement la même chose.
Tout pareil.
Tout pareil.
Ok. Ok. Ben, on va passer à la deuxième. Hein. Est-ce que vous avez un modèle ou un mentor, un modèle, un mentor, une influence, quelqu'un qui a compté dans votre parcours ou que ça soit quelqu'un que vous connaissez ou une image,
alors,
une image, une influence.
Je n'ai aucune culture de fan, moi. C'est-à-dire que je suis fan de personne, mais quand j'ai écrit mon livre. Il y a deux personnes qui m'ont beaucoup, Léon Gauthier, dont on parlait précédemment, le seul vétéran qui est décédé récemment, qui a lu mon livre et qui m'a téléphoné, qui m'a dit je me suis régalé, ça a été pour moi un bonheur. Et mon instructeur Ostachko, Denis, pour pas le nommer, j'ai fait une séance de dédicace à Ajaccio en Corse. C'est lui qui m'a ouvert la porte, mais je l'avais pas reconnu parce qu'il avait une grande gabardine et un chapeau. Et quand je l'ai reconnu, il m'a dit, alors tu dis pas bonjour à ton instructeur. J'ai pas réussi et j'arriverai jamais à le tutoyer. Mais il m'a dit simplement, c'est dans l'esprit, tu as tout compris. Et voilà, les deux personnes qui m'ont, si j'avais vendu que deux exemplaires de mon livre, et que ce sont seulement ces deux personnes qui l'ont lu et qui m'auraient réitéré les mêmes compliments, bah pour moi, voilà, c'est ma plus grande satisfaction.
Ouais, ça aurait suffi, quoi. Ouais. Combien de bouquins vous avez vendus jusque-là? Alors, attends, le livre, quand même, parce que j'ai pas donné le nom jusque-là. Parcours Commando, hein, qui est sorti.
Je crois qu'on est à. C'est mon éditeur qui vous précisera plus, mais je crois qu'on est à. Ouais. À 60 000 exemplaires ou plus, quoi, je crois. Quelque chose comme ça, ouais.
Voilà, donc c'est énorme. C'est juste pour se remettre dans le contexte. Je pense qu'on considère un best-seller à partir de 10 000, quelque chose comme ça.
Ouais, je sais pas. Mais c'est mon éditeur qui est content.
Ouais. Bah, vous aussi, quand même.
Moi aussi. Et en lise. Mais c'était pas la finalité.
Ok. Ben justement, est-ce que vous avez un livre à me recommander ben, mis à part celui-là, donc, qui est sur votre histoire, Parcours Commando, Marius.
Je vais vous recommander pour 2024 ma bande dessinée qui va sortir, puisque j'avais déposé la propriété intellectuelle de Motivex et Moraline, et on a créé grâce à ça deux personnages, puisque c'est deux mots que j'ai employés, que j'ai inventés dans le cadre du reportage de l'école des Bérets Verts pour Envoyé Spécial.
Motivex et Moraline.
Et du coup, j'avais déposé la propriété, enfin c'est mon agent éditeur qui m'avait dit de faire ça, de déposer la propriété intellectuelle parce qu'il dit on pourra un jour faire quelque chose avec ça. Et ben voilà, en 2024 on sort le premier tome de la première bande dessinée qui s'appelle Motivex et Moraline et qui sortira en 2024 et qui raconte, qui fait un parallèle entre la vie du militaire et sa vie à la maison de manière humoristique. Et voilà, et j'ai même mis mon chien dedans. C'est super sympa. Et on a trouvé,
c'est vous qui avez dessiné
le pied à l'étrier à un jeune dessinateur. Et on espère qu'on fera des petits avec cette bande dessinée. Voilà, c'est le genre de choses que je peux faire sur l'impulsion et sur le plaisir de faire des trucs. Donc, je vous conseille Motivex de Moradine qui sortira cette année.
Ok, il y a une date de sortie de prévue pour qu'on ait une idée ou pas?
Bah, on s'est dit pour septembre à mon avis, quoi. Septembre-octobre, on s'est dit ça à peu près. Là, il est fini, il est colorié, il est mis en page. Après, il faut lancer l'impression, les couvertures. Ça, c'est le travail de mon agent éditeur qui, lui, maîtrise le sujet là-dessus. Moi, je ne maîtrise pas. Si je pouvais dire « je sors demain », je sors demain.
Parfait. Bon, ben, on a tout. On va suivre ça. Merci Alain, Marius, d'avoir participé au podcast. Je suis content de vous compter parmi mes invités, surtout 2024. Voilà, l'année vient de commencer au moment où on enregistre, mais cet épisode sortira quelques semaines après le début 2024. J'ai hâte d'avoir les retours de tout à chacun. Beaucoup de gens m'avaient recommandé de prendre contact avec vous parce que vous êtes quand même un éléphant dans le milieu, si on peut dire. C'était un plaisir.
Dans le cimetière. Ça n'existe
oui,
pas.
Non, pas encore au cimetière.
Bah, merci de votre accueil. Merci de ce moment d'échange, de communication. Et puis, je vous réitère mes voeux de réussite, de santé, qui est la plus grande des richesses, et de profiter de la vie et de la vivre à 200%. Parce que la vie, c'est comme un interrupteur. Quand on l'éteint, c'est terminé. Il faut le savoir. Donc, profitez de tout ça et faites-vous plaisir. C'est la priorité. Merci. Bonne continuation.
Merci, Alain. Restez avec moi 30 secondes. On termine là-dessus. C'est super. Abonnez-vous au podcast. Si tous vous rejoignez le podcast aujourd'hui, vous avez découvert le podcast il n'y a pas si longtemps. Abonnez-vous en masse sur ce média qui a de l'avenir, qui a du passé, mais qui a aussi de l'avenir. Et puis, partagez ces épisodes. Portez-vous bien. Faites pas trop les cons. Et à lundi prochain pour un prochain épisode du podcast. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.